Non, j'y arrive pas.
Serrez bien les lèvres.
Ben, si cher, il va m'en sortir.
On aura tout vu samedi à 10h.
Foutez de ma gueule. Mais non, je fais de mon mieux.
Avec Christine Masson.
On laisse tomber, j'y arrive pas.
Et Laurent Delmas.
France Inter.
La voix est libre.
Lui, il arrive à siffler, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis.
Bonjour, c'est Laurence de Troyes. Je vous remercie énormément de ce moment magique, parce qu'il y a 21 ans, ben, j'accouchais de ma fille, et je suis dans ma voiture, et je suis en pleurs, donc merci, c'était super. Au revoir.
J'ai 4 enfants, j'ai assisté à leur naissance à tous les 4, et j'ai pleuré à chaque fois. Et aujourd'hui, Guénor et Lucie, vous m'avez encore fait pleurer. Merci là-bas si je suis. Patrick de Calvi.
Bonjour, moi je voudrais faire un monument pour tous les parents qui sont pas devenus parents et qui rêvaient de le devenir, tous ces femmes et tous ces hommes qui n'ont pas pu connaître ça. C'était émouvant ce reportage, dis donc. Et puis un petit monument qui soit pas une tombe à ma maman, qui a accouché de nos 3, il y a 32, c'est triplé, et puis qui nous a quittés, voilà, dans la nuit. Bref, bon voyage à tous les parents et leurs petits. Au revoir.
Bonjour, je viens d'écouter l'émission sur Pablo. Petite dédicace à Baptiste, mon fils qui a 32 ans. J'étais en larmes. C'était hier, c'était aujourd'hui. C'était un grand moment d'émotion et c'était magnifique.
Ça fait 2 jours que je pleure en vous écoutant. Il y a 2 jours, c'était à cause de la guerre de 14, de toutes ces horreurs. Et puis aujourd'hui, j'ai eu l'impression d'écouter du bonheur, tout simplement. De revivre des sentiments. Et je voulais vous remercier tous pour ces superbes émissions. Merci.
Bonjour Daniel, c'est Bruno de Lyon. Je viens d'entendre ton émission ce mardi sur l'accouchement. J'en suis encore tout remué. C'était beau. Enfin, c'était dur. Et on voit ce que peuvent supporter les femmes, ce que ne supportent pas les hommes. Et mais la séance finale aussi avec le bébé, que c'est beau un bébé, c'est vrai. Super Daniel. Bye, bonne chance.
Je viens d'écouter l'émission, alors elle me touche d'autant plus que mon fils a 16 ans et est né le 21 janvier. Mais alors Mermet, qu'est-ce que tu nous fais là? C'est du chocolat en barre. Je sais qu'il va y avoir plein de messages disant que t'as été génial de faire un truc pareil. Mais putain, comme elle dit la fille, putain, le pathos qui dégouline. Où est-ce qu'on va là? Moi, j'aime mieux les émissions un peu plus vigoureuses. Je sais bien, c'est génial, la vie, tout ça. Bon, pas trop n'en faut, point trop n'en faut. Ça n'empêche pas qu'on va dire bonne chance et tout à Sablo, mais là, ça dégouline trop. Merci, Marjolaine de Vienne. Ciao.
Bonjour, Daniel. Je m'appelle Didier et je suis chauffeur routier. Aujourd'hui, bien sûr, j'étais derrière le volant. J'ai 50 ans et pas d'enfant. Alors que j'aurais tellement aimé en avoir. Mais il faut accepter la vie comme elle se déroule, quoi, et je l'accepte. Je crois que j'ai une certaine philosophie de la vie. Mais aujourd'hui, Daniel, qu'on essaie derrière mon volant, en écoutant ton émission, j'ai eu des larmes aux yeux. J'ai eu des frissons. Je voulais te dire merci, Daniel. Merci pour toutes tes émissions et merci pour toutes ces émotions par lesquelles tu me fais passer. Merci, c'était Didier.
Ouais, salut là-bas. Donc, vous faites chier parce que je suis obligé d'aller aux toilettes pour verser ma petite larme après votre reportage. Parce que bon, je suis au travail, tout ça, dans une multinationale à la con. Et donc, j'écoute en podcast, là, et c'est trop émouvant. Et du coup, voilà. Donc, voilà, je me retrouve aux toilettes à vous laisser un message. Parce qu'en plus, pour moi, ça arrive fin avril. Donc, très émouvant. Allez, salut, et merci pour ce que vous faites. De toute façon, c'est toujours génial.
Salut aux AMG Angevin. Rendez-vous jeudi 13 février pour un café repère spécial qui s'intitulera « Croissance, solution ou problème ». Et comme on adore chez nous quand les points de vue se confrontent, nous accueillerons, pour débattre de cette épineuse question, Vincent Liéget, co-auteur avec Paul Ariès et Serge Latouche, du livre Un projet de décroissance, ainsi que plusieurs représentants des listes actuellement en lice pour les élections municipales, les listes Résister, construire à gauche et Angers, vivre mieux naturellement, mais aussi des partisans acharnés de la croissance avec des représentants des listes du PS et de l'UMP. Alors à jeudi 13, 19h, toujours au bar Le Challenge, 12 place Mendès France. Ciao les AMG.
Merci pour tous ces messages, les AMG qui ont beaucoup pleuré. Les dames comme les messieurs, hein, vous avez entendu. Merci hein, pour ces émotions hein, qu'on s'est fait hier avec ce reportage magnifique sur la naissance de Pablo. Aujourd'hui, tout à fait autre chose. On a des problèmes là-bas si j'y suis. Nous, on trouve que Hollande, il fait un petit peu, un peu bouboule, quoi, à côté d'Obama. Il est plus petit qu'Obama, il n'est pas aussi petit que Sarko, mais quand même. Et puis alors, on se demande où est passée Valérie, et pourquoi Julie n'est pas invitée. On se pose des tas de questions. Tout ça, ça s'appelle l'insignifiance. L'insignifiance, c'est bien plus efficace que la censure, c'est bien plus radical que toutes les campagnes de propagande. Tous les moyens, tous les médias sont mobilisés aujourd'hui pour propager l'insignifiance. Et beaucoup de journalistes collaborent à cette intoxication quotidienne, mais pas tous. Mais pas tous, vous le savez. Et aujourd'hui, on va rencontrer Chris Hedges. Chris Hedges. C'est un journaliste américain qui a été pendant 20 ans reporter de guerre pour le New York Times, The Gray Lady. Et puis, au moment de l'Irak, il a dénoncé cette guerre. Il a démissionné et donc il s'est retrouvé complètement tricard, lâché par la profession comme un pestiféré. Et il a écrit un bouquin qui a eu un très grand succès. Et du coup, il est devenu une des grandes figures de la dissidence américaine dans le sillage de Howard Zinn, Noam Chomsky et quelques autres. C'est lui que nous racontons aujourd'hui, que nous rencontrons aussi aujourd'hui, et qui va nous parler d'une autre Amérique, de l'Amérique des Américains, de l'Amérique de ceux qui dénoncent et qui résistent, l'Amérique que n'a pas vue François Hollande. C'est notre sujet du jour, Chris Hedges, journaliste dissident. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour Daniel. Les médias, les journalistes, donc, la grande préoccupation, c'est qui va s'asseoir à côté de François Hollande ce soir chez Obama. C'est la plus grande préoccupation. Vraiment, eh ben, je vous donne un scoop. C'est moi. Je suis invitée chez Obama et je vais m'asseoir à côté de Monsieur François Hollande, notre président. Voilà, c'est un scoop. C'est Marie de Pontoise.
Bonjour. Merci d'avoir passé mon message hier sur grand-père Louis ébéniste. Hélas, il ne s'appelait pas Louis, mais Charles-Albert. Pour qu'il ne reste pas pour toujours dans l'anonymat, si vous pouvez passer ce message, je serai soulagée de mon erreur. Et lui, plus encore. Pardon, grand-père, et super merci à vous. Micheline de Noisy-le-Sec.
Moi, je trouve qu'il faudrait classer les accouchements en discipline olympique, hein, parce que c'est vraiment du sport. Chapeau les filles.
Ce matin, dans Interactive, un auditeur, Simon, appelle pour poser une question un petit peu gênante à Leclerc. Et il se présente ainsi. Bonjour les AMG. Oh, pardon, je me suis trompé d'émission. Ah, ils sont quand même bien, les AMG. Ils sont quand même bien, les AMG.
Good morning, everybody. Good morning. Bonjour. That's the extent of my French.
Bonjour. Cela représente à peu près toute l'étendue de mes connaissances en français.
Few places.
Il y a peu d'endroits au monde qui réchauffent le cœur autant que Paris au printemps.
Paris
ce matin, nous allons faire de notre mieux avec Washington en hiver.
We're going to do our best with Washington in the winter. Here, under the red, white, and blue.
Aujourd'hui, sur un fond de rouge, blanc, bleu et de bleu, blanc, rouge, nous réitérons notre attachement envers la vie, la liberté et la quête du bonheur.
Liberté, égalité et fraternité.
President Hollande, welcome to the United States. Bienvenue, mes amis.
Mr. President, it's cold in Washington. Notre volonté aujourd'hui va au-delà de l'amitié entre la France et les États-Unis. Notre volonté, c'est de bâtir encore, toujours, un monde meilleur. C'est ce qui fait que l'amitié entre nos deux pays n'est pas une amitié comme les autres. Elle est une amitié au service de l'humanité.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Guy Ventil et Chris Hedges, journaliste dissident.
Flight number 2, arriving from New York.
Ok, Chris Hedges, on est très content de vous rencontrer. Vous avez écrit un livre entier, La mort de l'élite progressiste, et vous accusez, c'est le moins qu'on puisse dire, vous démolissez complètement dans ce bouquin ce que vous appelez la gauche progressiste et qui est devenue une gauche d'accompagnement. C'est à peu près la même chose chez nous, où la gauche a fait « indicate left and turn right », et qui soutient complètement non seulement la droite, mais la mondialisation, ce qu'on appelle le néolibéralisme chez nous, que vous avez aussi ici. Alors, vous citez Karl Polanyi, ce que vous dites avec lui, c'est « aujourd'hui, les mécanismes du marché » dirige le sort des êtres humains. C'est-à-dire que la domination absolue aujourd'hui, c'est le mécanisme du marché. Karl Polanyi a écrit ça dans les années 40, mais la gauche qui aurait dû lutter contre ça s'est complètement pliée, et s'est complètement couchée et a collaboré.
Well, that's it. We've undergone a corporate coup d'état in slow motion and we've lost.
C'est ce qui s'est passé. On a vraiment subi un coup d'État des multinationales, un coup d'État des grandes entreprises, au ralenti, et c'est eux qui ont gagné.
Our democracy has been snuffed out. The freedom of the press is gone. For the bottom two-thirds of African Americans, they are far worse off than when Martin Luther King marched in Selma.
Notre démocratie est complètement bâillonnée, notre liberté d'expression est complètement restreinte, et par exemple pour les deux tiers de la des Noirs américains, leur situation est encore pire qu'auparavant.
We have taken the bottom 15% of our workforce who are superfluous in a global economy since workers in Bangladesh only paid about 15 cents an hour, and we have put them in prison.
Les 15% les plus pauvres de notre classe ouvrière, des bras qui faisaient marcher notre pays, qui sont devenus maintenant complètement superflus, depuis que, par exemple, un ouvrier du Bangladesh coûte 15 cents de l'heure, eh bien, ces bras inutiles, on les a mis en prison aux États-Unis.
So we have 5% of the world's population and 25% of the world's prison population.
Les États-Unis représentent 5% de la population mondiale, mais 25% de la population carcérale au monde.
And almost all of them are poor people of color.
Et presque tous ces détenus sont des pauvres noirs.
Because the bodies of poor people of color are worth nothing on the street. They're worth $40,000 or $50,000 to prison contractors when they're locked in cages.
Pourquoi? Parce que les corps, les bras de ces hommes pauvres et noirs ne valent rien dans les rues, alors qu'ils rapportent $40,000-$50,000 pour des sociétés privées d'incarcération.
Hello again from Fox News in Washington. The Congressional Budget Office, Washington's non-partisan scorekeeper, tells a big load.
En 2005, vous vous souvenez, l'ouragan Katrina qui s'abat sur la Nouvelle-Orléans et on voit des scènes terribles de gens égarés, hébétés, qui savent plus où aller, qui n'ont plus rien. Mais sauf qu'une partie des États-Unis découvre ces Américains-là. Une grande partie des Américains ne connaissait pas ces Américains-là. Et le directeur de l'Agence fédérale des situations d'urgence déclare « Voilà, je découvre des gens dont on ne connaissait pas l'existence. » Chris Hedges, 20 ans de reportage pour le New York Times, qu'on appelle « The Grey Lady », c'est-à-dire le journal le plus prestigieux, vous le savez, des États-Unis et bien plus encore, très influent à travers le monde, très prestigieux donc, et qui est en reportage aussi bien en Amérique du Sud qu'au Kosovo, qu'en Tchétchénie, en Irak, il ne veut pas y aller. Il désapprouve cette guerre, vous vous en souvenez, c'est en 2003, et il dit non, il faut pas faire cette guerre, alors que vous vous souvenez comment le montage, l'émotion de la propagande avait entraîné l'adhésion des Américains derrière George W. Bush pour cette guerre. Lui s'y oppose. C'est ce journaliste-là. J'oublie de dire qu'il a eu le prix Pulitzer, qui était le prix le plus prestigieux pour un journaliste aux États-Unis. Il dit non, on n'y va pas. Et le journal le poussera à la démission et il va démissionner et il va enfin trouver une parole plus libre après une traversée du désert difficile, mais maintenant il se bat avec sa force d'expression de journaliste, avec ses convictions, et il fait partie, on est aux États-Unis, de ces hommes ou de ces femmes qui sont seuls et qui se lèvent comme ça, qui deviennent des figures dans la foule et qui vont à contre-courant. Mais qui sont aussi un courant à travers l'histoire des États-Unis. En 1905, Theodore Roosevelt appelle ces journalistes-là des muckrakers, c'est-à-dire des fouilles-merdes. Vous êtes des fouilles-merdes. Pourquoi ? Parce qu'ils font simplement leur métier. Ils s'appellent, par exemple, Upton Sinclair, qui écrit un bouquin, La Jungle, The Jingle, sur les abattoirs de Chicago. Et à la suite de ce bouquin, un petit peu comme le Tralbert Londres à nous, mais sans doute beaucoup plus radical, eh bien, les abattoirs de Chicago changeront complètement. Et je vous conseille de voir les photos d'un type qui s'appelle Jacob Riis, un photographe qui, en 1890, sort un bouquin de photos intitulé « Comment vit l'autre moitié des habitants de New York ». Et il montre des pauvres, et il montre des clodos, et il montre des ouvriers qui n'ont absolument rien. Et il montre cette Amérique-là. C'est cette Amérique-là qui inquiète et qui hante Chris Hedges. Et ce qui le hante encore plus, c'est comment ceux qui se prétendent être les progressistes, cette élite progressiste a complètement lâché et a coupé les ponts, n'a plus de lien avec cette Amérique qui souffre, qui est avide simplement d'égalité, avide de vivre, et qui finalement se barre vers le Tea Party et se barre vers la droite et vers l'extrême droite peut-être. Évidemment, vous avez compris qu'il a pas mal d'analogies avec ce que nous vivons, nous, en France et en Europe. Voilà pourquoi nous sommes avec ce journaliste dissident, indigné et en colère, Chris Hedges, jusqu'à 16h ou presque. C'est la Bassi Gissou.
Face first in the trenches. Face first in the trenches.
Back for combat, we get it raw. With a counterattack over tracks, we build minds of the blind. Never calm when we bomb on neocons. Pop the level, the rebel to you. Never lose a leather devil, break up my crew. Never nervous, serve them with the words with purpose. It's the COINTELKILLER, black hard truth, silverback. Still checking to see just who's set to come along with brothers, revive that movement. We're bringing the balance back, never non-violent attack. Guerrilla funk, your P.E. connect. So know when you're hearing the rhymes that I'm giving them, combined with the rhythm designed to expose the sins. All in is the master plan, until the curse is reversed. I'm saying, rebirth of a nation.
Une bonne occasion de parler de votre métier maintenant, Chris. Comme vous dites, vous avez été pendant 20 ans correspondant de guerre, vous avez couvert la guerre, et vous avez longtemps travaillé pour le New York Times, et vous ne travaillez plus pour le New York Times.
I was a war correspondent for 20 years, so I was on the ground, Sarajevo, Gaza, Iraq, El Salvador.
Moi, j'ai été journaliste de guerre pendant plus de 20 ans, en Irak, au Salvador, Sarajevo, à Gaza.
The last war I covered the war in Bosnia and Kosovo, but I you know, I had done it for 2 decades, and I did not have the physical or emotional resiliency that I had when I began. I mean, it was a kind of, I don't know if it was a breakdown, but it was an inability to continue to be a war correspondent.
La dernière guerre que j'ai couverte, c'était celle du Kosovo, et je pense que je n'avais plus la résilience physique et intellectuelle pour pouvoir encaisser davantage.
I had been the Middle East bureau chief for the New York Times. I'd spent 7 years in the Middle East. And in the build-up to the war in Iraq, I realized that all of the things that the Bush administration was telling us about the regime of Saddam Hussein was not only untrue, but that the ideas that they could implant democracy in Baghdad that would emanate out across the Middle East, and that the oil revenues would pay for the reconstruction, and that we would be greeted as liberators, flew in the face of reality. And I had spent months of my life in Iraq.
Et j'ai été après correspondant au Moyen-Orient pendant plusieurs années, et je, voyant comment l'administration Bush allait vers la guerre en Irak, non seulement en mentant, mais en plus en racontant comment les États-Unis allaient semer les graines d'une nouvelle démocratie qui sèmerait dans tout le Moyen-Orient, et que l'argent du pétrole permettrait de payer la reconstruction du pays, tout ça étant absolument faux.
So here I became like Zinn, where I spoke a truth that nobody wanted to hear.
Et voilà comment je me retrouvais dans la situation de Zinn, en train de dire une vérité que personne d'autre ne voulait voir.
And because they didn't want to hear it, and because I wouldn't be quiet, I was given a written reprimand from the paper to stop speaking about the Iraq war.
Et comme je continuais à parler et que personne ne voulait m'entendre, j'ai reçu un avertissement écrit de la direction du New York Times m'interdisant d'évoquer cette question sur la guerre en Irak.
And so, since I knew my situation was terminal, I quit the paper.
Et c'est pour ça que je savais qu'il n'y avait plus d'issue. J'ai démissionné du New York Times.
Because I wasn't going to keep silent.
Parce que je ne voulais pas rester silencieux.
And I wasn't about to see my voice muzzled when these lunatics were promoting a war that would result in the deaths and misery being inflicted on millions of innocent people.
Et je ne voyais pas rester silencieux alors que je voyais qu'on allait inévitablement vers la mort et la misère imposée à des millions d'êtres innocents en Irak.
So I became blacklisted in the media. I couldn't get a job after that.
Et donc du coup, après ça, j'ai été blacklisté dans les médias. Impossible de trouver un boulot.
The price I paid is nothing compared to what my friends paid in Iraq.
Mais ce prix à payer n'était rien par rapport à ce prix qu'ont payé mes amis en Irak.
And I hope that as an American, when I go back, I will have at least earned the right to ask for their forgiveness.
Et j'espère qu'en tant qu'Américain, j'aurai au moins gagné le droit, quand je retournerai là-bas, de leur demander au nom de mon peuple le pardon.
New York Times reporter Chris Hedges.
Le reporter du New York Times, Chris Hedges, était ce week-end au Rockford College dans l'Illinois pour un discours de remise de diplôme. Il a été chassé de l'estrade sous les huées.
We're going to hear that address right now. This is Chris Hedges.
Écoutons Chris Hedges.
I want to speak to you today about war.
Chris Hedges.
And empire.
17 mai 2003.
Je veux vous parler aujourd'hui de la guerre et de l'empire.
The killing.
La boucherie est maintenant presque terminée en Irak. Mais soyez-en sûrs, le sang va continuer à écouler, le leur comme le nôtre. Car nous y sommes engagés dans une occupation qui risque de faire autant de dégâts à nos âmes qu'à notre prestige, à notre puissance et à notre sécurité.
Our empire expands, and in all this we become tyrants to others weaker than ourselves.
Notre empire s'étend et nous devenons des tyrans pour ceux qui sont plus faibles que nous. L'isolement brouille toujours le jugement, et nous sommes aujourd'hui plus isolés que jamais.
We have forfeited the goodwill.
Nous avons trahi la bonne volonté et l'empathie que le monde avait pour nous après le 11 septembre.
We have folded in on ourselves.
Nous nous sommes repliés sur nous-mêmes. Nous avons gravement affaibli la fragile coalition internationale et les alliances qui sont essentielles pour maintenir et promouvoir la paix. Et nous sommes aujourd'hui embarqués dans une douteuse troïka, en guerre contre la terreur aux côtés de Vladimir Poutine et d'Ariel Sharon, deux leaders qui se sont distingués en Tchétchénie et en Palestine par des actes de violence insensés.
Comment cette histoire a été reçue par le milieu médiatique ici aux États-Unis?
Well, after I stood up within the New York Times newsroom, my fellow editors and reporters treated me as if I had leprosy.
Après de m'être exprimé, j'ai été traité comme un lépreux par les journalistes et les rédacteurs du New York Times.
Because they're careerists and they recognize that associating me with me was toxic.
Parce que c'était des gens carriéristes et qui savaient que le simple fait d'être associé à moi pouvait nuire à leur carrière.
The right wing, the cable shows lynched me.
Les chaînes privées de droite m'ont lynché.
Papers like the Wall Street wrote editorials denouncing me.
Le Wall Street Journal a écrit des éditos qui me dénonçaient, qui me pointaient du doigt.
So I started looking for a job to teach in high school.
C'est là où j'ai cherché à trouver un boulot pour être prof au lycée.
On vous a accusé de ne pas être objectif et de ne pas être impartial. Et c'est très très mal, le journalisme doit être objectif et impartial. Comme Fox News.
Right.
Fox News est équilibré.
The whole sort of notion of objectivity was of course invented by newspaper owners at the end of the 19th century so that they would not significantly offend the power elite and those for whom they sought advertising.
Les concepts même d'objectivité a été inventé par les patrons de presse à la fin du 19e siècle pour ne pas gêner l'élite dirigeante et pour pouvoir et ne pas gêner non plus les annonceurs qui allaient payer pour leurs journaux.
If you report on Auschwitz, you better run off and get the Nazi side of the story.
Donc si tu veux faire un reportage sur Auschwitz, il vaut mieux courir et faire la version nazie de l'histoire.
And by the time you're done, people can believe whatever they want to believe.
Et quand on a fini, les gens pourront croire tout ce qu'ils veulent croire.
And the truth becomes obscured. I think the great reporters care more about truth than they care about news, and it's not the same thing.
Et après, la vérité est complètement occultée, et je pense que les vrais grands reporters croient plus à la vérité qu'aux news, qu'en l'information.
I was a reporter for many years, and reporters manipulate facts. I can manipulate facts which are all accurate and correct. And spin you a story any way you want.
J'étais journaliste pendant suffisamment longtemps pour savoir que les journalistes manipulent les faits. On peut et je peux très bien, si vous le voulez, manipuler des faits parfaitement établis simplement pour en faire la version que vous voudrez et que je voudrais.
If I was good at manipulating facts that please the power elite, I would still be working at the New York Times.
Et si j'étais bon pour manipuler des faits d'une manière qui plaise à l'élite dirigeante, je serais encore aujourd'hui journaliste au New York Times.
Et Chris, est-ce que vous avez des regrets de ça? Vous avez des regrets?
No, I would regret it if I didn't do it. I wouldn't be able to live with myself.
Non, je pourrais pas me regarder dans le miroir.
I've also done, unbeknownst to me, my first book sold 300,000 copies, which saved me. I mean, financially and in terms of a career and every other one.
Et puis ce que je dois dire aussi, c'est que le premier livre que j'ai écrit s'est vendu à 300 000 exemplaires, ce qui m'a sauvé financièrement et surtout m'a garanti de pouvoir continuer à travailler.
Journaliste, dissident, Chris Hedges, il n'est pas le seul. Aux États-Unis, il y a un courant, je l'ai dit tout à l'heure, un vieux courant de résistance et de dissidence qui ne passent pas forcément souvent par ici. On a monté, construit des États-Unis une certaine image qui ressemble finalement assez à la propagande, puisque cette image a été essentiellement construite pendant ces longues années de la guerre froide, où communistes d'un côté et atlantistes de l'autre se sont livrés cette guerre froide, donc, mais qui était très très largement une guerre de propagande de chaque côté. Et l'image des États-Unis, évidemment, a prévalu, s'est installée, et d'une façon particulière par le rêve. La propagande par le rêve, la propagande par le charme, par la douceur, par la gentillesse, par le sourire, par le sexe, par le cinéma, par la musique, etc. Et surtout et avant tout par l'insignifiance, pour obtenir le consentement de la plupart, le consentement de la multitude. Dormez, dormez les amis, amusez-vous, profitez de l'existence, nous veillons sur vous et nous avançons. Et nous sommes le progrès, et nous sommes les maîtres du monde. Mais il y a quand même quelques oiseaux rares qui mettent des bâtons dans les roues. Chris Hedges.
Je voudrais qu'on parle maintenant de ce qui se passe aujourd'hui avec ce qu'on appelle les whistleblowers, les lanceurs d'alerte, Snowden. Tout d'un coup, des individus qui sortent comme ça, et puis qui ébranlent véritablement l'Empire. Il s'appelle Daniel Ellsberg, il s'appelle Julian Assange, il s'appelle Chelsea Manning, il s'appelle Snowden. Tout d'un coup, un individu sort, il n'est pas tout à fait seul, mais il est presque seul, et il ébranle l'Empire de façon tout à fait inattendue.
So I think history has shown that it's always a tiny minority that has the courage to expose the lies and the rot within a system of power that become effective.
Je crois que ce que l'histoire nous apprend, qu'en fait, c'est toujours une petite minorité de personnes qui s'élèvent pour pouvoir dénoncer les mensonges et la pourriture des systèmes en place.
Because, as Václav Havel said in his 1978 essay, The Power of the Powerless,
et comme l'avait écrit Václav Havel en 78 dans son livre Le Pouvoir des Impuissants, la traduction c'est pas approximative,
that when you speak a truth in front of decaying and corrupt power, it becomes very dangerous because it is a kind of unspoken truth that the rest of the society instinctually knows but hasn't yet articulated.
Que quand vous racontez la vérité sur un système qui est corrompu de l'intérieur, c'est très dangereux et très menaçant parce que vous pointez du doigt explicitement quelque chose que tout le monde sait intuitivement, mais refuse de dire et de voir et d'affronter tellement c'est dangereux.
So that, you know, it's because of Snowden, we know that virtually every American has all of their electronic communications captured by the government and stored in perpetuity in supercomputers in places like Utah.
Et par exemple, ce qu'a fait Snowden est de cet ordre-là, c'est-à-dire révéler au monde entier et aux Américains en particulier que toutes leurs communications électroniques sont enregistrées et stockées pour l'éternité.
And the investigative journalists that have exposed this are also in exile now.
Et les journalistes d'investigation qui ont exposé ça, comme
Laura Poitras, Glenn Greenwald, Jacob Applebaum, Sarah Harrison, Sarah's British, but she can't go back to her own country.
C'est tous ces journalistes, Applebaum, Glenn Greenwald qui est au Brésil, Laura Poitras qui elle fait le documentaire, tous sont exilés, ils ne peuvent plus travailler aux États-Unis.
Then work, they can't come back. They can't even come here.
Et non seulement ils ne peuvent plus travailler aux États-Unis, mais ils ne peuvent même plus venir aux États-Unis.
C'est pas seulement ce qu'a dévoilé Snowden, c'est pas seulement le contrôle des citoyens américains dans leur intimité, c'est le contrôle de tous les citoyens de la planète. Et cette histoire a commencé à sortir à partir du moment où c'est les puissants qui ils sont aperçus qu'ils étaient eux-mêmes contrôlés, Angela Merkel et autres, et c'est là que l'histoire est sortie véritablement.
Well, that's what, you know, in some ways it replicates the self-destructive behavior of all tyrannies at the end.
Mais c'est symptomatique de ces mouvements où des systèmes corrompus de l'intérieur s'effondrent d'eux-mêmes et deviennent une menace pour eux-mêmes.
So that you saw with Louis XVI, he would sell the patents of his own nobility. And that's what always happens at the end where they become almost cannibalistic in that they not only prey on the masses, but they prey on their own.
C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec Louis XVI, qui vendait des titres nobiliaires, alors même que son pays était en train de s'effondrer. C'est toujours ce moment où les systèmes deviennent une espèce de auto-cannibale, parce qu'ils se savent au bord de l'effondrement.
And that's a very dangerous moment, and that's the moment we're seeing.
Et c'est un moment comme celui-ci qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Vous pensez que le système est au bord de l'effondrement?
Yeah, and they think so too.
Je, non seulement je le pense, mais eux le pensent aussi.
Well, because they passed through a series of laws to essentially criminalize any form of dissent.
Bah parce qu'ils ont passé une série de lois qui visent à criminaliser toute forme de dissidence.
So you have the FISA Amendment Act, which retroactively made legal what under our Constitution used to be illegal, the warrantless wiretapping, monitoring and eavesdropping of all Americans.
Il y a eu la loi qui a rendu possible rétrospectivement ce qui était interdit par la Constitution américaine, c'est-à-dire la surveillance, l'enregistrement et le flicage de tous les citoyens américains.
You have the misuse of the Espionage Act, which is our Foreign Secrets Act, to criminalize whistleblowers, people who are exposing government crimes.
On a aussi l'usage biaisé de la loi de l'espionnage qui criminalise tous les lanceurs d'alerte qui pourraient s'exprimer.
Between 1917, when Wilson passed it, and 2009, when Barack Obama took office, it was used three times against whistleblowers, the first time being against Ellsberg.
Entre 1917, quand cette loi a été promulguée, et 2009, quand Obama est arrivé, cette loi avait été utilisée seulement à trois reprises visant à criminaliser les lanceurs d'alerte. Et la première fois qu'elle avait été utilisée, c'était pour Daniel Ellsberg et les Pentagon Papers.
Obama's used it eight times.
Obama, depuis, a utilisé cette loi à huit reprises.
Including against Snowden.
Y compris contre Snowden.
En juin 1967, McNamara commande au Pentagone une étude historique approfondie de l'engagement américain au Vietnam.
Les dossiers secrets du Pentagone.
Nous nous sommes adressés à la Rand Corporation pour recruter des spécialistes des études historiques. Et l'un d'eux était Daniel Ellsberg.
Arte, 21 avril 2010.
J'étais loin d'imaginer que ma participation à cette étude allait changer ma vie et le cours de l'histoire.
Daniel Ellsberg.
En découvrant l'histoire de cette guerre depuis l'origine, j'ai été plus affecté que je ne le pensais. J'ai remis en question la légitimité même de la guerre. J'ai compris que c'était une guerre américaine depuis le début. Nous étions responsables de centaines de milliers de morts, d'un massacre que rien ne justifiait et qui faisait de nous des meurtriers. Il fallait arrêter les meurtres.
And I thought, all right, I have in my safe.
Je me suis dit, j'ai dans mon coffre des centaines de pages qui éclairent cette politique du mensonge. Je ne veux plus cautionner cette imposture.
Pattern of deception. I'm not going to be part of this system of lying anymore.
En mars 1971, Ellsberg transmet le dossier à Neil Sheehan, un reporter du New York Times.
Just because some guy's going to be a martyr, we can't be in a position.
Richard Nixon.
Même s'il veut jouer les martyrs, on ne peut pas le laisser continuer ses fuites massives. Sinon, il va finir par faire des émules. Il faut s'attaquer au type qui a tout monté. Et c'est Daniel Ellsberg. Il faut coincer ce fils de pute.
Mais qu'on parle du mouvement Occupy Wall Street. Ça a été une bouffée d'engagement. Vous êtes engagé là-dedans, à fond, vous avez été une référence, vous avez... Chomsky aussi s'est engagé, il était là partout à écrire, à soutenir. Et puis ce mouvement a été monté, et puis plus rien aujourd'hui. Racontez-nous cette histoire, et pourquoi plus rien aujourd'hui?
Well, first of all, the Occupy movement was physically eradicated by the state. All of the encampments were shut down through a coordinated effort by the federal authorities.
D'abord, il faut dire que le mouvement Occupy a été physiquement éradiqué par l'usage de la force.
Now that's not to
partout,
say...
par un effort coordonné des forces publiques, partout où il avait lieu.
That's not to say that there were internal problems in Occupy, which I was very well aware of.
C'est pas pour nier qu'il y avait des problèmes internes au mouvement Occupy dont j'étais tout à fait conscient.
As Kropotkin noted, consensus works very well in a small number. It's paralysis when you have 4,000 people.
Comme le disait très bien Kropotkin, le consensus marche très bien dans des petits mouvements, mais ça devient paralysant dans des mouvements de plusieurs milliers de personnes.
But I think we have to look at Occupy as a tactic. In the same way that when Rosa Parks got on the bus in 1954, it was a tactic 5 years later, we got the Freedom Rides.
Il faut, je pense qu'il faut voir Occupy comme une tactique. De la même manière quand Rosa Parks s'est assise dans le bus à la place des Blancs, c'était une tactique qui, 5 ans après, a permis le mouvement pour les droits civiques.
So what's happening now, it looks as if it's dormant, but it's not. What's happening now is that the ideology of the ruling elite, which is globalism, free market capitalism, you know, the fiction of American democracy, is being shredded across the political spectrum because it's a lie.
Et donc on a l'impression que ce mouvement est complètement dormant aujourd'hui, mais c'est faux, parce que toute l'idéologie dominante de l'élite au pouvoir, c'est-à-dire l'idéologie du marché libre,
the fiction of American democracy,
la fiction de la démocratie américaine,
the idea that everybody has economic opportunity,
l'idée que tout le monde a sa chance économique, son opportunité, sa chance à saisir, tout ça a été déchiré, tout ça a été défait des deux côtés du spectre politique américain.
I think most people in America realize that it's impossible to vote against the interests of Goldman Sachs.
Les gens ont compris, la plupart des Américains ont compris qu'il était impossible de voter contre les intérêts de Goldman Sachs.
Or ExxonMobil or Raytheon or anyone else.
Que ce soit, mais ça peut être aussi ExxonMobil ou toute autre grande multinationale.
And so what's happening is a new vocabulary is being created to describe our reality. A new consciousness about our reality is incubating.
Et ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est de nouvelles idées qui sont en train d'incuber. Il y a un processus en cours.
And Alexander Berkman in 1905 writes an essay called The Idea is the Thing, where he said that as long as the ruling elite can get the masses to believe in the ideology, they're safe.
Et Alexander Berkman avait écrit à ce sujet que tant que l'élite au pouvoir voit ses idées reprises par tout le monde, elle est à l'abri.
But once those ideas collapse, the institutions of the ruling elite collapse.
Mais une fois que ces idées s'effondrent, alors ce sont les institutions mêmes de l'élite au pouvoir qui s'effondrent.
And he said that it looks like a sudden, unexpected eruption. Well, that's especially true by the ruling elite. They don't even fly on commercial airlines. So they're going to be the last to know. But that is what's happening, which is seismic.
Et c'est toujours présenté comme une éruption imprévue et inattendue. Et ça l'est effectivement pour l'élite au pouvoir qui est toujours en train de voler dans des avions au-dessus du ciel. Mais pour ceux qui sont au niveau du sol, on sent le séisme, la portée sismique de tout cela.
Don't you know? Talking about a revolution sounds whisper. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run. Talking about a revolution, oh no.
Chris Hedges. Vous dites que les Américains ont compris qu'il était impossible de voter contre Goldman Sachs. Mais vos compatriotes du Tea Party, eux aussi ont compris ça. Sauf que ça a donné un mouvement populiste avec des aspects d'extrême droite.
Oh, but they're fascists. They speak in the language of violence. They celebrate the gun culture. They fuse the iconography and language of American nationalism with the Christian religion.
Mais ce sont des fascistes qui ont les armes en bandoulière, qui ont toute une idéologie et tout un imaginaire basé sur l'Amérique religieuse réactionnaire.
And they demonize the vulnerable.
Ils diabolisent les vulnérables.
Muslims, undocumented workers, African Americans, liberals, feminists, intellectuals, and like all fascist movements.
Et comme tous les mouvements fascistes, ils diabolisent les pauvres, c'est-à-dire les femmes, les musulmans, les Africains américains, les homosexuels, ceux qui les sans papiers, et ainsi de suite.
And they're funded by the most retrograde elements of American capitalism, like the Koch brothers.
Et ils sont financés, soutenus par les mouvements les plus rétrogrades du capitalisme américain, comme les frères Koch.
Mais au départ, il y a une indignation qu'on peut tout à fait partager, celle de voir que finalement, votre gouvernement a renfloué les banques, a renfloué Goldman Sachs, etc., au moment de la crise. Et tout ça avec des fonds publics.
Fascist movements are always manipulated by the business elite. So that, you know, what is it that drove people into the streets to support the Nazi Party? It was the same outrage that drove people into the streets to support the Communist Party. But unfortunately, fascist movements are very skillful at redirecting a legitimate rage and a legitimate sense of betrayal towards the weak and the vulnerable. That's what fascism does.
C'est exactement ce qu'a fait le fascisme nazi, en utilisant la même colère que les mouvements communistes, mais en la réaiguillant. C'est ça la force du fascisme, c'est de diriger, de rediriger cette colère populaire contre les faibles et les vulnérables.
La classe moyenne américaine est venue panser ses plaies, elle aussi, et rassembler ses forces pour combattre les tyrans de Washington.
Arte.
Ce prédicateur chrétien intégriste n'y va pas de main morte.
2 novembre 2012.
Seigneur, notre gouvernement a engagé de vastes opérations de pillage légal. Nous venons confesser nos péchés en tant que nation. Chaque dollar dépensé dans l'éducation, les affaires sociales ou la réforme de la santé est un péché. Le sauvetage des banques ou de l'automobile est un péché. L'avortement est un péché. Amen.
Quand on demande à Noam Chomsky ce qui caractérise notre époque, il dit, moi, quand j'étais jeune à New York, on était pauvre, l'Amérique était pauvre, c'était pendant le New Deal, et donc on était pauvre, etc. Mais on avait de l'espoir. Aujourd'hui, le pays, en moyenne, est beaucoup moins pauvre, en moyenne. Mais l'espoir a complètement disparu. Il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas de demain, il n'y a pas de projet. Est-ce que c'est votre sentiment aussi? Et est-ce que vous avez de l'espoir et pourquoi?
Well, because we had radical movements, including the Communist Party, that articulated a vision. It may have been utopian, but it was a vision. We no longer have movements that articulate any vision. And that's what we have to build. That's what we have to create.
Parce qu'à l'époque, il y avait des mouvements comme les mouvements communistes qui avaient une vision. Même s'il était parfaitement utopique, au moins il présentait un autre monde possible. Or qu'aujourd'hui, on n'en a plus. Et c'est ça qu'il faut qu'on rétablisse, qu'on construise une nouvelle vision pour le futur.
So people can accept sacrifice and even misery when they believe they are fighting to create something.
Les gens peuvent accepter les sacrifices et la misère quand ils savent, quand ils croient qu'ils sont en train de construire quelque chose de nouveau.
We haven't articulated what it is we want to create.
On n'a pas encore articulé ce qu'on veut créer.
There's the role of movements is to make those who hold power frightened of us.
Le rôle de tout mouvement, c'est que les gens qui ont le pouvoir aient peur de nous.
And that's what the left forgot. It's not our job to take power.
Et c'est ce que la gauche a oublié. La gauche, c'est pas notre boulot de prendre le pouvoir.
It's our job to scare the shit out of people in power.
Notre boulot, c'est de foutre la pétoche à ceux qui sont au pouvoir.
Because as Karl Popper wrote, the question is not how do you get good people to rule. Most people attracted to power are at best mediocre or venal.
Parce que comme disait Karl Popper, le but du jeu, c'est pas d'avoir les bonnes personnes au pouvoir. Parce que la plupart des gens qui sont attirés par le pouvoir sont au mieux médiocres et au pire mauvais.
And the question is how do you make that power elite frightened of you? I mean, that is the question, and that's what we forgot.
La question essentielle, c'est comment faire peur à l'élite au pouvoir. On a oublié ce point essentiel. On a oublié comment et pourquoi il fallait leur faire peur.
Merci Chris Hedges, journaliste dissident, traduction de Guy Van Til, quelques bouquins de Chris Hedges parus en français, L'Empire de l'Illusion, La mort de la culture et le triomphe du spectacle, chez Lux, éditeur, l'éditeur de Montréal, et un autre bouquin, La mort de l'élite progressive, chez le même éditeur. Et un troisième, formidable, chez Futuropolis, une bande dessinée de Chris Hedges avec Joey Sacco, vous savez, le gars qui a fait ça, c'est une bande dessinée formidable sur Gaza. Et ça s'intitule Jour de destruction, jour de révolte. Et là, c'est vraiment une Amérique que François Hollande n'a pas vue. Vous trouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis. Vous pouvez réécouter également cette émission sur là-bas.org. Là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Bruno Poncelet et Dimitri Kronov. L'émission a été réalisée par Franck Adhérer et Guillaume Giraud, préparée avec Jonathan Duong et Stéphanie Fromentin. Attends vos messages sur le répondeur de Là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour Là-bas, si j'y suis. En principe, demain, on devrait parler des manifs dans les rues de Paris mais, ou dans l'île de France, mais les manifs de droite. Je vous laisse avec Hervé Pochon pour son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour à tous et bienvenue au Centre Tao, en plein festival de méditation. Delphine, qui est une des responsables de ce Centre Tao. Bon, alors, j'ai compris qu'ici, vous enseignez le Wu Tao, mais qu'est-ce qui se passe d'autre dans ce Centre Tao?
Alors, du Tai Chi, du Qigong, mais aussi des arts martiaux. Le Kung Fu Wushu, les arts martiaux chinois, les arts martiaux de Bruce Lee. Du yoga aussi.
Je vois que là, il y a un festival du féminin qui est organisé du 7 au 9 mars 2014. Ça consiste en quoi? Il n'y a que des femmes?
Et oui.
Je peux venir faire un reportage ou même pas?
Ah, vous pouvez venir faire un reportage, il n'y a pas de souci. Et surtout, ça n'est pas du tout un festival contre les hommes. C'est un festival consacré aux femmes. D'ailleurs, on organise aussi un festival du masculin consacré aux hommes. Vous savez qu'il y a de plus en plus aujourd'hui en France, mais pas seulement, au-delà des frontières, des cercles de femmes. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui où les femmes, nous sommes en 2013.
En 2014, oui. Vous n'êtes pas bien centrée, hein, Delphine. Là, il va falloir reprendre la méditation.
C'est vous qui vous me troublez, hein. C'est ça.
Alors,
hein.
Si c'est moi, alors... Mais bon.
En fait, il y a effectivement beaucoup de choses taboues, beaucoup de paroles taboues.
Par exemple, dites-moi quelque chose qui est tabou.
La sexualité après la ménopause, pour une femme. Sexualité quand une femme est enceinte. Les règles. Beaucoup de femmes n'osent pas parler de leurs règles. C'est aujourd'hui, ça fait partie des choses taboues aujourd'hui dans notre société. Ça paraît incroyable, mais c'est comme ça.
Quand vous expliquez qu'il y a autant de râleurs en France, alors que paraît-il qu'avec la méditation, on pourrait régler tous les problèmes, si je vous écoute là depuis un petit moment.
Mais il n'y a pas assez de personnes qui méditent. La méditation ne peut pas tout résoudre. Aucune pratique ne peut tout résoudre. La méditation peut aider à se sentir bien, à se sentir mieux, à révéler aussi des choses de soi, apprendre à mieux se connaître, ça fait forcément du bien. Je trouve que ça rend plus intelligent, ça rend plus humain. Maintenant, dire qu'une pratique peut tout changer et peut tout transformer, il en faut quand même un peu plus.
Vous me rassurez.
Je le vois dans vos yeux.
Bon, je vous laisse boire votre thé parce qu'il va bientôt pas être froid.
Merci.
Merci à vous. Quand on les regarde, on a l'impression qu'ils dansent en fait.
Oui, c'est une sorte de danse. C'est une méditation d'Osho qui s'appelle No Dimension. Pas de dimension. Et donc c'est très inspiré des derviches. Les derviches tourneurs, etc. Et donc, on tourne vers le nord, vers le sud, dans les quatre directions. Et on tourne sur soi-même avec une respiration et un mouvement.
Le bruit qu'on entend, c'est un instrument ou c'est les 45 personnes qui font
chou? Les personnes qui font chou. Ça s'appelle chou.
Et font chou en mettant la main en avant comme ça.
Chou.
Comme chou. Comme pour expulser.
Exactement. Il faut viser très loin à l'horizon.
Surtout des femmes, hein.
Il y a une majorité de femmes, ouais. Dans le développement personnel et dans les questions autour de la connaissance de soi, il y a beaucoup, beaucoup de femmes.
Ah, voilà un homme. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Est-ce que vous venez méditer?
Non, je suis organisateur, co-organisateur de l'événement.
Ah, d'accord. Donc vous surveillez que tout se passe bien?
Exactement, oui, on regarde. J'ai donné maintenant là, une petite conférence sur comment intégrer la méditation à la vie quotidienne.
Je vois votre prénom?
Jean-Claude.
Jean-Claude, comment intégrer la méditation dans sa vie quotidienne?
Comment intégrer la méditation dans sa vie quotidienne? C'est apporter plus de conscience et plus d'attention à ce que nous sommes et à ce que nous faisons.
Et vous gagnez votre vie avec la méditation?
Alors, je gagne ma vie avec un site qui s'appelle méditationfrance.com, qui est un portail web de la spiritualité, où effectivement nous avons des rubriques méditation, tantra, thérapie, pratique spirituelle, médecine douce, etc. Et sur ce site, nous vendons des espaces publicitaires.
À quel âge vous êtes dit, tiens, je vais gagner ma vie en créant un site de méditation?
En fait, c'est pas que je me suis dit, ça s'est fait un petit peu comme ça tout seul. On est parti sur une idée de créer un site. Et puis voilà, ça a marché. Donc ça s'est développé au fil des années. Mais on n'est pas parti en pensant qu'on allait vivre de ça. Mais maintenant, effectivement, je vis de ça. Ouais.
Vous faisiez quoi avant alors?
Avant, j'ai voyagé beaucoup, j'ai travaillé dans différents endroits de la planète, j'ai été beaucoup un globe-trotteur, disons. Quand j'ai fait des études de comptabilité, la vie qui m'attendait, c'était le Crédit Lyonnais.
Et alors ?
J'ai travaillé pendant 2 mois et j'ai dit non, c'est pas possible que maintenant, toute ma vie, ça va être le Crédit Lyonnais. Donc j'ai décidé, je m'en vais, je fais autre chose. J'ai été faire les vendanges. Et puis de là, c'est parti une nouvelle vie. J'étais très attiré par les voyages, etc. Et donc, dès que j'ai pu, j'ai gagné un peu d'argent et je suis parti voyager. J'ai fait le tour des États-Unis, du Canada, du Guatemala, du Mexico en autostop pendant 1 an en vivant avec 40 dollars par jour, par semaine.
Ah oui, parce que là, j'allais dire 40 dollars.
Oui, 40 dollars par semaine. Puis voilà, après, l'aventure continue. On est amoureux des voyages. Un voyage en amène un autre.
Comment vous expliquez tous les gens qui travaillent au Crédit Lyonnais? Il y a bien quand même quelque chose qui est intéressant.
S'ils trouvent quelque chose d'intéressant, c'est OK. Chacun doit suivre sa vie telle qu'il l'entend. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir une certaine sécurité, une certaine chose. C'est bien, il n'y a pas de problème.
Et aujourd'hui, vous avez quel âge?
Aujourd'hui, j'ai 58 ans.
Et vous êtes heureux?
Absolument, oui.
Alors, si on veut en savoir plus, on va sur méditationfrance.com et c'est comme ça qu'on vous fait gagner votre vie, quoi.
Voilà, un temps de pochon, c'est fini, on se retrouve demain.
Pour tous ceux qui s'aiment, ce vendredi, Super Loto de la Saint-Valentin. 14 millions d'euros minimum à gagner, à partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour, Patrick Buisson annonce aujourd'hui qu'il va porter plainte contre Le Point, plainte pour diffamation. Le magazine affirme que l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy a enregistré plusieurs entretiens durant le quinquennat de l'ancien président. Des heures et des heures, dit le magazine, de réunions stratégiques concernant notamment la campagne présidentielle de 2012. La justice a annulé aujourd'hui l'expulsion d'un Algérien. Il avait été interpellé dans la foulée de l'affaire Merah. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Claude Guéant, l'avait présenté comme un islamiste radical. Alors qu'il n'avait commis aucun acte illicite, le tribunal administratif de Paris a estimé que l'arrêté d'expulsion était entaché d'un excès de pouvoir. La mosquée de Blois, profanée par des inconnus, ils ont jeté la nuit dernière une tête de porc à l'intérieur ainsi que 3 autres morceaux de viande. La porte d'entrée était aussi recouverte d'un sigle inconnu des services de police, en l'occurrence MLE France. Le grand-père des 2 enfants guyanais soupçonnés d'avoir participé à leur enlèvement pour les emmener au Brésil s'est suicidé ce matin. Ça s'est passé dans les locaux de la gendarmerie où il était entendu dans le cadre de sa garde à vue. Il s'est pendu avec son pantalon. Il avait été interpellé lundi avec 3 autres femmes dans cette affaire de faux enlèvement. En fait, il s'agit d'une histoire inventée de toutes pièces par la famille. Il s'agissait d'exfiltrer ses enfants chez leur père au Brésil pour les soustraire à un placement en famille d'accueil. La commission des affaires sociales de l'Assemblée a retouché aujourd'hui la proposition de loi socialiste sur les stages. Retouché avant le vote. La possibilité de congé devra être prévue systématiquement pour les stages de plus de 2 mois. Le PS a donc voté pour, l'UMP contre. Cette proposition de loi fait partie des engagements de campagne de François Hollande qui avait promis d'encadrer les stages pour empêcher les abus. Le texte sera débattu à l'Assemblée mercredi prochain. Bruno Ledoux, l'actionnaire clé de Libération et aussi artisan d'un projet très controversé de transformation radicale du journal, veut se donner le temps pour le mettre en place, ce projet. Et il assure aujourd'hui plancher sur un renflouement à court terme du quotidien, et ce via un prêt de l'État avec un petit apport des actionnaires. En panne de trésorerie, Libé a besoin d'une aide d'urgence pour éviter la faillite. Bruno Ledoux n'a pas dévoilé le montant que les actionnaires verseraient, mais selon une source proche du dossier, il s'agirait d'environ 2 millions d'euros. Les 3/4 des salariés français disent ressentir ressentir personnellement les effets de la crise, résultat d'une étude menée par l'Institut Think, publiée aujourd'hui. Et comment la ressentent-ils, cette crise? Eh bien, par la stagnation des salaires, principalement, davantage de stress aussi et une hausse de leur charge de travail, d'où une baisse de motivation. Enfin, le naufragé salvadorien qui affirme avoir dérivé pendant 13 mois seul dans l'océan Pacifique a retrouvé aujourd'hui ses parents et sa fille. Il a été accueilli hier soir à San Salvador comme un héros avant d'être transporté à l'hôpital pour examen. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Demain,
à l'occasion de la Journée mondiale de la radio,
vous entendrez autant de femmes que d'hommes sur France Inter.
Les invités des émissions seront féminines.
Les débats tourneront autour des questions de discrimination.
Du recul des droits des femmes.
La programmation musicale aussi sera paritaire.
Un artiste homme.
Une artiste femme.
Un artiste homme.
Une artiste femme.
Et tout au long de la journée, sur le site de France Inter, vous pourrez retrouver les états d'âme et les réactions de Gloria.
Héroïne de la dessinatrice Marianne Mori-Kaufmann.
Et une journée, c'est tout?
Non, ce n'est qu'un début. À partir de là, on continue le combat.
Toutes les infos,
les rendez-vous
sur franceinter.fr.
France Inter,
la voix est libre.
Bonjour Frédéric Lodéon.
Et bonjour Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations.
Et bien à tout à l'heure.
À tout à l'heure. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Nous allons continuer à explorer ce grand coffret de belles musiques bien enregistrées, Deka Sound, donc la fierté de la maison Deka, des années et des années. 50 CD en tout, toutes sortes d'enregistrements, notamment d'orchestres très vastes, de chœurs aussi, d'instruments solistes. Et avant, voici un instrument qui est un orchestre à lui tout seul, c'est l'accordéon. Notre cher accordéoniste français et international, Bruno Maurice, bien, il va être demain à l'École normale de musique, la salle Cortot à Paris, c'est rue Cardinet, tout près de ce métro d'ailleurs, Cardinet, puis à l'angle du boulevard Malesherbes, dans le 17e. Alors il va donner un concert demain à 20h30, on l'encourage fortement, parce que l'accordéon, bien joué, bien construit aussi, c'est un très très bel instrument, et je vous propose tout de suite d'entendre d'Enrique Granados une orientale.
Thank you.
Oriental d'Enrique Granados par Bruno Morris à l'accordéon, donc pour la sortie de son récent disque Mi Tango, accordéon solo classique et contemporain. Bruno Morris sera demain à la salle Cortot à Paris, rue Cardinet, c'est à l'école normale de musique, 20h30, et on peut trouver les renseignements sur son adresse, donc www.brunomorris.com, brunomorris.com. Voilà, un très beau musicien sur un instrument qu'il faut suivre, défendre et admirer, bien sûr. Alors l'orchestre symphonique, lui, n'a pas besoin de défense, quoique, en ces temps de musique synthétique, très souvent, mais il faut toujours insister sur la valeur extraordinaire des timbres d'un orchestre qui est aussi riche de ses violons, alto, violoncelle, contrebasse, alto, aussi bien évidemment à cordes que dans les instruments. Avant, on peut entendre, bien sûr, les saxophones, on peut entendre, dans certains cas, les flûtes, les hautbois, les bassons, les cors, etc. C'est une richesse exceptionnelle de l'histoire de l'humanité. Et on va entendre un extrait de la 9e symphonie dite La Grande, donc tirée de ce coffret Decca Sound, dirigé par Joseph Krips, le bon papa Krips, qui était considéré comme un grand tenant de la tradition viennoise, grand mozartien, mais là, il est chauffé à blanc par cette symphonie que certains ont dit interminable. Ils l'ont dite interminable parce qu'elle était évidemment presque inépuisable en musique. Et Stravinsky a dit, qu'importe si je m'endors quand j'écoute Schubert, si quand je m'éveille, je suis au paradis. Ben voilà, là on prend la fin de l'Allegro Vivace, pas le temps de s'endormir, simplement d'admirer le London Philharmonic avec Joseph Krips.